Bienvenue dans Un jour, une autre histoire, un podcast basé sur la résilience, cette capacité à rebondir malgré les difficultés. Le dicton vous dira que tout est possible à celui qui croit. Un podcast basé sur la culture du bonheur, réunissant des témoignages d'avant-après incroyables, des conseils, mais aussi des histoires pleines de rebondissements. Vous l'avez compris, je vais vous prouver que nous pouvons être heureux envers et contre tout. Quel bonheur d'inaugurer ce tout nouveau podcast, ce tout nouveau rendez-vous hebdomadaire en cette fin de mois d'octobre rose. Je tenais à trouver une superwoman à l'histoire passionnante. Cette superwoman, elle a résonné en moi comme une évidence par la magie de la technologie. Elle est aujourd'hui sur son île espagnole. Je suis moi en région parisienne dans mon bureau. Vous, je ne sais pas où vous êtes, mais ce qui est certain, c'est que c'est le bon endroit pour passer un moment convivial. Je suis très heureuse d'accueillir une grande dame de la télévision. Elle s'appelle Michèle Hetzel et elle a vraiment une histoire pas comme les autres. Bonjour Michèle, merci Bonjour. D'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Nancy.
C'est vraiment un plaisir d'être avec toi, surtout qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur toi Michèle. On va commencer par le commencement. Michèle, enfant, c'était quoi tes rêves ?
Je crois que enfant, je ne rêvais pas beaucoup. J'ai été hyper active, hyper dynamique et j'étais plutôt sur un ton de drôlerie, à capter l'attention des gens autour de moi, de ma famille, en étant drôle. Énergie et drôlerie, je dirais, oui.
Tout est un petit peu lié puisque tu étais drôle, tu aimais bien te donner en spectacle. Tu as dit que par après, tu as passé un casting par hasard pour Télé Luxembourg, mais finalement, c'était pas un hasard, c'était peut-être une vocation.
C'est vrai que vers 15 ans, j'avais demandé à mon père pour faire l'école de théâtre à l'époque de Robert Hossein. Il avait dit non, c'est rigolo, c'est un métier de saltimbanque. Donc non, par hasard, oui, parce que moi, on n'avait pas de télé. En plus, mon père se faisait un point d'honneur à ne pas avoir de télé à la maison. C'est quand même par hasard que je suis arrivée à la télé. Mais c'est aussi parce qu'il y a un copain de fac, il voyait bien que je m'ennuyais, que je n'aurais pas été très loin dans mes diplômes universitaires, et qui m'a dit, mais il y a un métier pour toi à la télé, il cherche une présentatrice. Et c'est comme ça que j'ai fait ce concours.
Et là, tu démarres finalement une toute nouvelle vie, déjà à ce moment-là, que tu n'imaginais absolument pas.
Absolument pas. J'étais en province, en France, et j'étais destinée à être interprète ou prof d'allemand. Je me retrouve comme ça propulsée à la télé, hein, et la télé qui avait une grande importance à l'époque parce qu'on était dans les années 70 et c'était vraiment l'outil de rassemblement des familles. Il y avait rien, il y avait pas de réseaux sociaux et le divertissement venait du petit poste de télé devant lequel tout le monde se mettait le soir. Donc c'était un élément très important, donc qui rentrait et qui dans la vie de famille. Donc, ceux qui apparaissaient sur l'écran ou celles qui apparaissaient sur l'écran étaient d'emblée importantes socialement, quoi. La plus grande magie que je trouvais dans cette démarche, c'est de me retrouver assise sur un siège devant des télés et de devoir parler. Moi, j'ai une très bonne mémoire, donc d'annoncer les programmes, d'être souriante, ce que j'étais toujours, depuis toujours. Et je trouvais ça facile. Et surtout, quand j'ai vu tous les honneurs, je n'en revenais pas parce que je trouvais ça d'ailleurs un peu disproportionné d'avoir tous ces honneurs pour un métier qui me semblait très facile et pas si important que ça. Après, je l'ai compris, l'importance de ma place.
C'est vrai que c'est un métier, finalement, qui paraît simple, mais quand on le fait, ça n'est pas si simple, ça n'est pas à portée de tout le monde. Mais toi, ça t'allait comme un gant, et c'est vrai, tu l'as dit, tu étais la grande sœur pour de nombreuses familles. Tu as eu une notoriété incroyable en Belgique. Alors, tu as commencé par être speakerine à Télé Luxembourg, mais après, ça a continué. On parle quand même de 35 ans de télévision, c'est pas rien.
Oui. Oui, alors juste un petit point sur le, par exemple, comment j'ai fait ce concours un dimanche toute la journée avec 200 filles au départ et que je l'ai gagné à la fin, ça révèle beaucoup de choses de moi, ça, parce que je l'ai fait. D'abord, ma mère était venue avec moi, on m'avait maquillée outrageusement à l'époque avec du bleu sur les paupières.
Mais ils aimaient ça.
Par une copine qui étudiait l'esthétique dans mon quartier, enfin tu vois le niveau.
Ah mais oui, bon, oui, je vois bien. Voilà. On veut la photo.
Et on est parti en deux chevaux et pour faire ce concours. Et puis, j'ai trouvé pas de place devant la télé. J'ai pris la place du directeur. Je me suis garée là. Enfin, tout ça, j'étais légère parce que je suis quelqu'un d'assez légère. Je trouvais ça très chouette, très beau, très facile. Et toutes les épreuves, Les filles se tordaient à répondre à des questions, mais pour être le plus sophistiquées, on me disait votre plat culinaire alors préféré. Alors il y a des filles qui sortaient des trucs pas possibles, snob et tout, compliqué. Moi je disais oh moi c'est la tarte aux pommes. Et donc j'ai fait ça, mais en fait j'étais pas beaucoup réfléchie, j'étais moi-même. J'ai fait mon numéro comme, et mon numéro a marché.
Mais
Voilà.
souvent, nos plus belles réussites sont finalement quand on n'attend rien de ce qu'on est en train de faire.
Eh oui, je savais pas très bien ce que j'attendais, où j'allais, ce que je serais, et le métier que j'allais faire. Et donc pour après, bon, alors j'ai commencé comme speakerine, et puis après on a commencé à faire des émissions parce que la télévision était retransmise de plus en plus en Belgique, dans le nord-est de la France, au Luxembourg et tout ça. Elle s'étendait et c'était une télévision commerciale, donc de grand divertissement. Et dans ce genre de télévision, comme dans le genre de ces radios-là, les personnages, les animateurs et tout, on les starise. Ça devient des petites stars comme ça, et
Les grandes.
on les exploite aussi au point de vue commercial. On fait des photos dédicacées, on les amène dans les supermarchés pour faire des animations, tout cela grassement rémunéré d'ailleurs, qui ne gâchait rien. Et bon, je me laissais porter par tous les événements, mais après j'ai commencé à être très très populaire. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'abord un jeu d'argent qui est l'équivalent de la valise, qui s'appelait le coffre-fort, et ça c'était 3 fois par jour, et je le faisais tous les jours, et les gens devenaient fous avec ce jeu. Il fallait appeler en ouvrant le botin du téléphone et en appelant quelqu'un au hasard. Et là, les gens devenaient dingues. Tout de suite suivi d'une émission phare qui s'appelait Citron Grenadine, qui était l'équivalent du Club Dorothée en France et qui a eu une popularité énorme, énorme, énorme. Alors, tous ces jeunes, c'était il y a 35, 40 ans. Donc, maintenant, ils ont grandi. Bon, moi, entre-temps, j'ai vieilli, mais eux, ils ont grandi. Il m'arrive, par exemple, d'aller dans un restaurant et je pousse la porte et j'entends le pizzaiolo qui fait la, 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 enfin, la
C'est
chanson de
vrai?
l'émission et tout. Et
Génial.
c'est, et voilà. Et il y avait aussi, tes parents ont dû regarder ça, une émission le dimanche qui s'appelait Buona Domenica pour les Italiens. Des spectateurs très, très chaleureux et eux aussi m'ont porté au nu tout de suite. Ils me trouvaient très sympathique, très ouverte
Mais
et je correspondais.
tu aimais quand même le public italien, parce que tu as fait après, parce que bon, 20 ans de télé quand même, ensuite tu as fait à peu près 15 ans de production, si je ne me
Oui,
trompe,
oui, oui.
parce que tu es passé après sur RTL, RTL
Oui.
TVI aujourd'hui, que je connais bien, puisque tu m'as repéré chez
Oui.
RTL. Tu avais donc cette émission Viva Italia, où tu aimais beaucoup justement ce public très cher, mais
C'était
c'est
une
vrai
des
que...
plus grosses audiences de la chaîne. C'était un one shot, donc c'était une émission que j'ai préparée, qui a été faite sur la place de la Louvière, qui est emblématique pour les Italiens de Belgique, que j'ai présentée avec Salvatore Adamo, d'ailleurs, qui était un des Italiens célèbres, mais il y en avait plein en Belgique. Tous ces gens-là étaient des fils de deuxième ou de troisième génération d'émigrés italiens. C'était une émission qui était une émission de divertissement, mais c'était une émission sur la mémoire. C'était une émission très touchante. Ça a été l'émission parce qu'elle a été suivie aussi par les Belges. Mais je crois que personne ce soir-là n'a manqué de regarder la télévision et ça a été la plus grosse audience de tous les temps.
Waouh, ça ne m'étonne pas. Et évidemment, bah derrière justement cette speakerine devenue animatrice, aimée, appréciée par tous les Belges et bien plus encore, tu as eu envie après de grandir. Donc, il y a encore eu une autre histoire dans ta vie, celle de la productrice. Productrice de grands événements comme notamment Miss Belgique. On connaît Miss Belgique puisqu'il y a Miss France, il y a des Miss partout dans le monde, mais
Oui.
aussi du télévis.
J'ai toujours voulu faire de la production. Je voulais toujours arrêter la présentation parce que c'était très cher. J'avais envie de faire plus, aller plus au fond et me révéler un peu plus journaliste et moins présentatrice. Et donc, ça m'a amenée vers la production, effectivement. Pour les Miss Belgique, oui, c'est moi qui ai fait le premier conducteur donc du déroulement de cette élection, qui était quand même difficile parce que il y avait toute la partie flamande à respecter, puisque la parité en Belgique, c'est 10 Miss flamandes et 10 Miss francophones, et une émission très lourde puisqu'en deux langues. En fait, c'était la seule émission qui s'adressait à tous les Belges en même temps. À part le discours, l'allocution de la nouvelle année par le roi, mais voilà. Et donc c'était une émission importante aussi sociologiquement parlant, et puis pour l'histoire de la Belgique. Et effectivement, après, j'ai fait aussi des grands événements, 10 ans de RTL TVI, la scène de Forêt nationale avec 10 000 personnes, quoi.
Après avoir rêvé RTL, moi, pareil que toi, je suis arrivée un peu dans la marmite sans le chercher, et c'est toi qui m'as découverte alors que j'aurais pas misé un sou sur moi. Mais ça c'est encore.
Ah non, non, mais je me rappelle, je te vois encore dans mon bureau, en face de moi, à la petite table. là. Non, non, mais je me rappelle.
Mais c'est
non,
parce
non,
que j'ai chanté que tu m'as prise. Tu aimes le chant,
non,
toi.
Non,
tu aimes
non,
quand
non,
on chante.
Non, non, non. Écoute, je pense avoir, tu sais, il y a l'histoire de Virginie Efira qui, comme toi, était à cette même table. Et la petite histoire de Virginie, elle l'a d'ailleurs appelée et elle m'a d'ailleurs remerciée. Et j'ai organisé, il n'y a pas longtemps, une émission caritative pour une collecte. Elle est venue de Paris parce que c'est quelqu'un de fidèle et de réglo. Mais la petite histoire de Virginie, c'est qu'il y avait un journaliste et qui m'a demandé ce que je pensais de l'avenir de Virginie, qui était alors débutante. Et j'ai dit, mais ça, c'est quelqu'un qui va réussir. Mais dans le cinéma, ça a été écrit et tout, donc avant tout le monde, je l'avais quand même bien vue parce qu'elle fait maintenant une magnifique carrière. Mais alors, pour revenir à la production de Télévie, alors ça a été pour moi une sorte d'apothéose de mes actions, un accomplissement.
Télévie est une association magnifique qui récolte des fonds. Au départ, c'était pour la leucémie, on est d'accord, et maintenant
oui,
plutôt pour tous
en
les
fait,
cancers.
On avait eu cet objectif, cet angle un peu pointu de la leucémie chez les enfants.
C'est ça.
C'était en 1989. On a toujours récolté de l'argent pour lutter contre la leucémie. On a fait des progrès énormes grâce à l'argent récolté et offert au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. Mais maintenant, on a élargi, je vais conclure là-dessus, le thème, puisque de toute façon, la recherche, elle est étendue. Et si tu cherches peut-être pour un cancer ou l'autre, peut-être qu'en cherchant pour un cancer X, tu vas trouver une solution pour un autre cancer. Donc, c'est pour ça qu'on a cru bon, après, de ne plus resserrer quand même cet objectif de Télévie des enfants. Mais pendant 4-5 années, c'était le leitmotiv, oui, contre la leucémie des enfants.
Et donc, tu étais derrière tout ça. Moi, je t'ai vu. Tu m'as d'ailleurs fait chanter beaucoup au Télévie.
Ouais.
Tu étais une grande passionnée de production. Ça t'allait vraiment comme un gant. Et il y a un moment où on t'a vu avec les cheveux courts. Et malgré cela, tu as continuer à produire le Télévie comme si de rien n'était. Je m'en souviens très, très bien. Tu ne laissais absolument rien transparaître. Et je voudrais savoir comment tu as fait pour avoir autant de force dans ce combat-là.
Alors, justement, pour d'abord les fêtes, effectivement, le Télévie, c'est toujours en avril. Donc, on m'a découvert un cancer en mois d'octobre précédent. J'ai fait une série de 6 chimios qui ont fait espacer chaque fois de 3 semaines. Et j'ai donc perdu tous mes cheveux, mes cils et mes sourcils. Alors, tout de suite, donc je donne tous mes trucs. Là. Par exemple, j'ai eu un coiffeur extraordinaire qui m'a dit, on va pas attendre que tout tombe en plaque. Là. On va chercher une très bonne perruque de qualité, on va te la mettre sur la tête et on va exactement couper et colorer tes cheveux comme tu es maintenant. Donc ça, c'est déjà un truc que je donne pour les femmes. C'est déjà d'être prévoyante et de ne pas aller quand les cheveux sont tombés. Parce qu'une fois que les cheveux sont tombés, on n'a plus beaucoup de goût à l'ouvrage. On n'a plus envie de courir on n'a plus l'énergie pour aller chez un coiffeur et tout. On baisse. Ça, c'est un moment terrible, les cheveux qui tombent parce qu'on baisse un peu les bras. Donc, moi, j'avais cette perruque. Et au fur et à mesure de mes chimios, je me disais, bon, je la mets maintenant déjà ou je laisse encore un peu tomber. Je la mets maintenant, mais je l'avais. Et donc, je l'ai mise. Et cette perruque-là, je l'avais encore au mois d'avril quand on a fait le Télévie. Et je voulais absolument faire le Télévie. Chaque fois que je faisais des chimios, je ne prenais pas… Ça, c'est aussi quelque chose que je… Mais il faut avoir l'occasion, la force et la disposition. Par exemple, les chimios, je ne prenais pas les médicaments pour les effets secondaires. Pourquoi ? Parce que souvent… Il y a de la cortisone, ça te gonfle beaucoup le visage. Et en fait, c'est de nouveau, après l'injection de la chimio, une salve de chimie qui rentre en toi.
Ça t'incommode
et donc,
beaucoup.
Mais alors, j'attends ce que je faisais. J'étais malade comme un chien pendant deux, trois jours ensuite. Et j'attendais sur mon lit. Je me disais, et ça, c'est, je voudrais le dire, c'était ma devise, ma méthode. Le temps va passer et le temps va m'apporter du meilleur. Sois patiente. Ce qui n'était pas évident avec mon caractère d'être patiente.
Ça a été ton épreuve.
Quand tu dis que je menais les productions de main de, c'était énergique, un peu sévère et pas de patience. Hein. Mais il faut avoir le temps. Par exemple, je faisais ma chimio à l'époque avec une dame qui était indépendante, qui avait un commerce. Mais elle faisait sa chimio le vendredi avec moi, mais elle pouvait pas se permettre de rester jusqu'au mercredi allongée en attendant que le temps passe. Le lundi, elle devait lever son rideau et aller dans son commerce parce qu'elle était indépendante. Donc là, déjà, j'avais de la chance parce que moi, je suis quelqu'un qui a eu toute ma vie une chance énorme et encore dans ma maladie une chance, de la chance. Donc pour cette histoire de chimio, mais alors j'avais dit à toute l'équipe, écoutez, moi je fais le télévis hein, comme d'habitude, parce que une fois que j'étais remis de mes chimios, je retournais bosser, et on faisait le conducteur et tout ça, on préparait le télévis. Et puis pour le rideau spontané, l'exploitation m'avait dit, écoute, je vais te mettre derrière le rideau une chaise longue. Comme ça, quand tu es au cours de la soirée, puisque si tu te rappelles, ça a duré 5 heures de direct.
Très long, oui.
Et grâce à mon esprit militaire à commander tout le monde, on avait à la fin des 5 heures de direct, on faisait un exploit qu'aucune télévision faisait quand on fait du direct. On dépassait peut-être de 5 ou 10 minutes tellement je coupais les gens, je voulais pas qu'ils soient trop longs et tout ça. Mais bon, il y en a qui m'ont maudit, mais bon, bref. Et
ouais, donc, mais bon, c'était ton rôle aussi, hein. C'est pas évident ouais, hein, d'être chef d'orchestre d'une émission comme celle-là.
Et donc, au cours du télévis, là, je me suis dit, quand t'es fatigué, tu t'allongeras. C'était à Marche, en Famène. Il y a une grande salle de spectacle qui s'appelle le Wex. Et quand je suis arrivée, les répétitions, c'était 8 jours avant, quand je suis arrivée pour les répétitions, j'ai vu le directeur du UX qui est venu me dire bonjour, ça va? Et donc, oui, voilà. Alors, il dit, mais c'est quand même formidable ce que vous faites. Hein. Je suis très sensible à ce que vous faites parce que je vais vous faire un secret entre nous. J'ai le cancer, il me dit. Alors, je l'ai regardé, je dis, je vais vous faire un autre secret. Je vais vous dire aussi un secret. Je l'ai aussi. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, oh, pas vous, vous avez le cancer. Enfin, comme si le cancer ne pouvait pas m'attaquer, moi.
C'est pour ça que je suis ravie de t'avoir, parce que tu es un témoignage magnifique. Tu vois, même au moment où tu avais la maladie, tu le savais très bien, tu savais pas exactement ce qui allait se passer. Tu restais pareil, en fait.
Oui. Alors, ce que je voudrais dire aussi, puisqu'on est là quand même pour donner des tuyaux et puis pour que je raconte mon expérience. D'abord, je t'ai parlé de la chance que j'ai. Mon énorme chance, c'est d'avoir été entourée de médecins ultra compétents, puisque je les connaissais tous, puisque les années avant, j'étais de l'autre côté de la barrière dans les hôpitaux à faire les interviews. Et cette année-là, j'avais été du côté où j'étais soignée. Ils étaient tous, mais tellement attentifs à moi que, mais aux petits soins et tout, j'ai mesuré, des fois j'étais gênée de toutes les attentions et j'avais l'impression, mais on me disait, mais non, laisse-toi gâter, tu le mérites et tout ça, etc. Bon, ça c'est déjà une chance première. Ma deuxième chance, c'était d'être entourée. J'avais un mari, j'avais une fille qui avait alors 16 ans. Pour elle, c'était très, très difficile de vivre ça parce que tout s'est tourné, on l'a complètement oublié dans l'affaire. Elle a vécu ces mois de maladie. On l'a complètement oublié de s'occuper d'elle, psychologiquement et tout. Enfin bon, bref, mais elle était très forte. Elle, voilà. Donc j'avais des parents, j'avais un frère médecin. Enfin, j'étais entourée et j'avais des amis qui savaient très bien qu'il fallait pas me téléphoner tous les jours pour blablater parce que c'était pas mon genre et qui de temps en temps gentiment demandaient des nouvelles et tout. Voilà. Donc ça, c'était encore une chance. Troisième chance, je pense que c'est une chance soit, mais c'est aussi une force qui est en moi. Quand on m'a dit que j'avais un cancer, j'ai même pas pensé une seconde que j'allais mourir. J'ai tout de suite pensé, ah non, ça va pas se passer comme ça, je vais me battre. Et donc, j'ai eu une force et même, je dirais, une presque légèreté, parce que j'avais un cancer grave, de grade 3, avec 3 tumeurs, dont une qui était près du thorax. J'étais presque inconsciente de la gravité.
Tu sais que j'ai l'impression que parfois, il vaut mieux vivre un petit peu dans le déni des souffrances pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui a fait que finalement, tu as réussi à rester forte, même si tu as eu tes moments hyper durs.
C'était pas un déni volontaire, ça correspondait à mon tempérament. Du genre, mais ça va s'arranger. Une de mes devises, c'est de voir dans la vie, pour toute situation, le verre à moitié plein. Jamais je le considère vide. Donc, à moitié vide. Donc, c'est déjà à moi, ça, comme ça. Et donc, si tu veux, mais alors, ce que je voudrais dire aussi, parce que je suis en train de raconter ça, on peut dire, ah ouais, mais elle a beau dire et tout ça, mais ce que je voudrais dire, je suis parfaitement consciente que tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des gens qui sont isolés. Oh, Quand j'allais faire mes chimios, je voyais des femmes isolées et tout, qu'il n'y avait personne pour. Moi, on me faisait pendant mes chimios, on me faisait quelque chose parce que je faisais un essai de protocole pour pas faire tomber les cheveux qui faisaient énormément mal. On me serrait un bandeau au maximum et pour supporter cette douleur, on me faisait des piqûres de morphine. Donc, quand je sortais de cette chimio, je savais même plus comment je m'appelais. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui m'accompagnait et qui me ramenait chez moi. Je rentrais dans mon lit puis j'attendais que ça se passe. Donc, je voyais des femmes isolées. Et je me disais, ça, c'est pas évident d'être seule face à la maladie.
Oui,
Et
parce
puis
qu'il
tout
faut
le
aller
monde.
chercher ses ressources toute seule, en fait, finalement, on n'a même pas l'entourage sur lequel s'appuyer mentalement. Et finalement, tu l'as dit, le mental, c'est le plus important pour guérir.
Oui, le mental, c'est très important, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des dons inouïs, qui font des choses absolument magnifiques, mais qui n'ont peut-être pas la force de caractère que j'ai, mais c'est pas de leur faute. Chaque être est particulier et composé de tout ce qui lui a été donné à la naissance. Je dis ce que j'ai vécu, je dis comment j'étais, mais je suis consciente que de toute façon, c'était parce que j'étais comme ça que ça a marché. Maintenant, on peut toujours essayer de faire, de se porter sur le mental. Moi, j'ai même pas demandé. Maintenant, quand je regarde les dossiers, je vois que c'était un cancer grave, mais je m'y étais même pas accrochée qu'il était grave ou qu'il était pas grave. J'en voulais pas, quoi. Donc, j'ai dû être reconstruite parce que non seulement ils avaient enlevé le sein, mais ils avaient énormément creusé du côté du thorax. C'est pour ça, on a fait une opération lourde et ça a été peut-être le plus dur 2 ans après parce que on m'a reconstruite avec un morceau de mon dos qu'on a pris, qu'on a vrillé, qu'on a mis devant, enfin voilà. Et donc cette opération, là aussi, j'y étais, mais comme une niaise, en pensant que voilà, j'allais me réveiller le lendemain et hop, je serais bien, j'aurais des beaux seins et tout ça, etc. Or, quand je me suis réveillée de l'opération qui a duré des heures avec deux chirurgiens, je n'ai pas pu me mettre sur le ventre, je n'ai pas pu me mettre sur le dos, ni du côté et tout, parce que c'était infaisable pratiquement, et on m'a suspendue comme ça. Et là, j'ai eu un coup de down. Et là, je voulais dire quelque chose parce que faut pas croire que je suis pas passée par des moments.
Bien sûr.
Là, je me suis fait voir par un psy et on m'a dit, alors que quand on m'avait annoncé le cancer, il y avait un psy à côté du médecin qui me l'annonçait. Le psy est venu vers moi et m'a dit, je ne crois pas que j'ai besoin de, vous aurez besoin de moi, mais si vous voulez, je suis toujours là parce qu'elle m'avait vu et tout. Mais par contre, on m'a dit, il faut prendre des antidépresseurs et je les ai pas pris. Non, parce que je me suis dit, oh, allez, je vais m'en tirer comme ça. Mais les mois qui ont suivi ont pas été chouettes. J'étais vraiment désagréable avec les autres, irritable, triste et tout ça. Bon, après, le naturel est revenu et tout ça est passé. Mais bon, voilà, ça fait que finalement, j'ai bien fait parce que j'ai jamais encore pris d'antidépresseur de ma vie.
Mais c'est bien parce que les antidépresseurs, le problème, c'est qu'on va régler la forme, mais pas le problème de fond non plus. Et donc là, à nouveau, voilà, faut être fort. Des fois, il faut les prendre, mais ça fait perdre la mémoire. Enfin, voilà, je trouve que si on peut s'en sortir sans en consultant, ça peut être finalement mieux et ça peut permettre aussi pour le corps de pas en rajouter des couches, quoi, on va dire. Donc, bravo.
Ce que je voudrais dire aussi, alors je vais peut-être me faire incendier par les partisans de ces, c'est de ne pas soigner un cancer avec des médecines parallèles qui n'en sont pas. J'ai une amie très chère qui a vécu la même chose que moi. Elle ne voulait pas d'entendre parler de chimio et de médecine traditionnelle. Elle l'a fait autrement. Eh bien, elle est vite partie. Donc, ça n'engage que moi, mais je le dis, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que la chimio, comme a dit un grand professeur de médecine, m'a dit un jour, la chimiothérapie, c'est une saloperie pour le corps, mais on n'a rien trouvé encore d'autre aussi efficace pour tenter le coup.
Tu fais très bien d'en parler, Michel. Tu as raison de mentionner ce sujet. Et tu as dit d'ailleurs dans une interview, pour une fois, c'est la seule chose que j'ai faite. On m'a dit fais comme ça, j'ai fait comme ça.
Ah oui. Eh ben oui. Là, je me suis laissée faire. Mais en fait, j'avais un bon sentiment. J'étais entre de bonnes mains, j'étais bien. C'est fou de le dire, j'étais bien quand on vit un cancer, mais c'était un peu comme ça,
Parce que dès le démarrage,
responsable.
tu as pris un parti de dire je vais changer l'histoire. Ok, j'ai
Ouais.
ça, très bien, je l'accepte, c'est factuel, mais je vais changer l'histoire et c'est ce que tu as fait. Et depuis, c'est passé énormément de choses. Ton histoire a évidemment changé à partir du moment où tu as guéri. J'imagine que tu as dû complètement changer tout en toi, non?
J'aimais déjà énormément la vie, j'avais pas du tout envie de la laisser. La preuve, maintenant, je l'aime encore plus. Il y a des choses et des gens que je ne supporte pas. Enfin, que je ne supporte pas n'est pas le mot. Mais je ne réponds plus à certaines choses qui me semblent inutiles et vaines. Je trouve que la vie, elle est. Je la considère. Bon, moi, je trouve que réussir sa vie, c'est d'y croire déjà, de croire en la vie, d'aimer la vie, de ne pas en perdre de temps, pas une miette, et puis d'optimiser et d'essayer de la faire durer la plus longtemps. Moi, c'est mon rêve, parce que il y a tellement de choses qui m'intéressent. Et toujours avoir des objectifs, il y a encore plein de choses à faire, enfin voilà. Donc, le cancer, qu'est-ce qu'il a changé en moi? Je dirais, j'avais déjà mon mental et mon moral étaient à peu près pareils, pas autant, j'ai fait d'autres choses. Après, donc, je suis sortie de la télévision en étant mise à la porte hein, par le directeur. Là aussi, je dois dire merci. Depuis le temps que je disais, oh, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai d'autres choses à faire, oh, quand je serai plus à la télé, je ferai ça et tout. Mais je n'arrivais pas à décrocher de mon siège. Parce que j'avais pas du tout envie de quitter ce métier qui m'a donné mais toutes les joies, tous les honneurs. Et alors que on est quand même sur un plan régional. Attention, hein, je ne suis pas à un niveau mondial, mais j'étais la petite reine de mon quartier là et j'avais tout, la facilité de la vie, les amusements parce que moi j'adore rigoler et donc tout était fait. Donc j'arrivais pas vraiment à partir. Alors le fait que ce type m'ait foutu dehors. Ça a été j'ai été encore en forme et j'ai pu faire ce que je voulais faire et notamment j'ai fait deux documentaires sur des femmes d'exception. Je me suis mis à la peinture que je ne montre pas parce que c'est risible, je ne suis pas un peintre, mais moi ça me fait tellement de bien, je mets mes couleurs pétantes sur des toiles et voilà. Et alors Michel est d'accord pour les mettre sur
Michel,
les murs.
Ton mari donc hein,
ouais, seulement sur les murs de la maison de vacances.
Mais il est déjà gentil, moi mon mari n'en ferait pas autant hein, tu sais. Non mais le talent, tu sais ce qu'a dit Jacques Brel hein, le talent c'est l'envie de faire quelque chose, donc ouais. Ça doit être probablement magnifique.
Et c'est l'envie de faire quelque chose et des objectifs qui te tiennent en haut de l'affiche, je peux te dire, en haut de ton affiche personnelle, et tant pis si tu es tout seul là-haut, mais au moins t'es bien parce que t'es en haut et t'as des objectifs. Mais et donc j'ai fait donc mes documentaires et j'ai aussi fait depuis quelques années, mais là cette année je n'y vais pas, j'ai repris mes cours de littérature parce que j'ai toujours une passion, c'est la lecture et tout ça, et j'adore être, au départ je me disais qu'est-ce qu'ils vont dire les jeunes à la fac, ils ont 20 ans, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette vioque là, elle est là, je suis la seule avec un papier à crayon parce qu'évidemment les autres ont leur book, leur Mac, enfin leur Mac et tout, donc ils tapent.
Leur MacBook, oui. C'est trop mignon.
Quand mon stylo tombe par terre, le jeune homme à côté, même si c'est même pas plus que c'est un stylo, il me le ramasse et il me le redonne en se disant voilà, elle va pouvoir continuer à prendre ses notes. Et donc, il y a des profs extraordinaires. Hein. Je suis à l'ULB. Et donc, voilà. Mais cette année, j'ai pas été parce que je trouvais qu'il fallait laisser la place. Les universités sont bondées et c'est pas à nous d'occuper les bancs. C'est plutôt aux étudiants de, parce que à un moment donné, ils ont dit oui, ça sera un cours sur trois. Et puis, j'ai compris que c'était vraiment pas ma place, mais je le reprendrai un jour.
Moi, je pense que ça tirait très bien un livre où tu te livres un petit peu.
Ah, non,
plus
c'est pas mon genre.
Que ce qu'on est en train de faire maintenant.
Ah, non, non. Ce que je te dis, c'est par amitié, parce que j'ai de l'estime pour toi et que je ne vois pas pourquoi je ne répondrai pas à tes questions, parce que ce que je raconte est tout à fait ma vie, qui n'a pas de secret. Mais je ne l'ai jamais porté sur la place publique, je n'ai jamais voulu être porte-parole d'une cause et tout ça, non. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup de choses. Hein. J'aime l'immobilier, retaper des maisons, les redécorer, donc ça n'a rien à voir avec mon métier. J'adore voyager, tu sais que j'aime beaucoup les vacances et tout ça. On est installé maintenant sur une île qui est passionnante, avec des gens qui sont différents de moi, que je découvre et tout ça. Tout m'intéresse. Les gens m'intéressent, les choses m'intéressent et les lieux m'intéressent. Donc, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, voilà.
Eh bien, en tout cas, c'est magnifique de t'entendre aussi heureuse. Est-ce que tu auras un message pour la prévention par rapport à Octobre Rose?
La prévention, c'est d'aller se faire contrôler régulièrement. Et puis, voilà, parce que je vais un peu contrarier ce que je viens de dire, parce qu'en fait, figure-toi, mon frère était il vient de mourir brusquement. très jeune, il était un médecin sténologue, donc radiologue pour le dépistage du sein. Donc, le jour, en 2002, en 2001, il m'a appelé, ma mère et moi, il a dit, allez les filles, venez, je dois essayer mes appareils, j'ai des nouveaux appareils numériques et je vais faire une radio de votre poitrine et de vos seins. Et donc, on y a été. Et j'ai eu ce cancer, donc trois tumeurs, 18 mois après. Quand je l'ai appris à mon frère, il pratique en France, il est arrivé en Belgique, il était fou, il avait peur d'être passé à côté de quelque chose, il a repris mes radios, il a regardé, il n'y avait rien. Donc, 18 mois ont suffi pour développer chez moi ces saloperies-là. Il faut pas laisser, quand on a un rendez-vous chez le médecin, moi quand j'étais chez ma gynéco, et c'est elle qui l'a trouvé, formidable bonne femme, elle l'a trouvé et tout, j'étais chez ma gynéco, elle était en retard. Je me suis dit, oh, elle est toujours en retard, je vais partir.
Je vais partir.
Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je suis restée. Eh bien, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'encore quelques mois en plus, c'était plus guérissable.
Voilà, donc prévention, surtout tous les ans, on va chez le gyné.
Souvent, pas tous les deux, trois ans, dire, oh, tiens, ça fait longtemps que j'ai été. Oh, ben, tiens, je vais y aller. Oh, ben, j'ai un peu de temps, je vais y aller. Non, se faire une discipline de ça.
Parce que si on veut la garder,
ça passe par ça.
Tout à fait. Se palper aussi, regarder régulièrement. Et pour les superwomen là qui seraient en train de mener le combat, est-ce que tu aurais un seul mot à leur dire pour qu'elles gardent le courage?
Ben moi, jusqu'au bout, il faut y croire.
Ne rien lâcher.
Ouais. Y a lâcher et ne pas se disperser, s'énerver intérieurement. Rester maître de sa pensée et rester maître de sa volonté d'y arriver. C'est ça, parce que si tu te disperses en toi, si tu t'affoles et tout, tu perds un peu les rênes de ta conduite intérieure. Et ça, il faut essayer de ne pas faire ça.
Voilà, on revient finalement à l'importance de la force du mental, de prendre soin de soi, beaucoup de l'intérieur finalement et dans ce qu'on est, dans la manière dont on pense. D'ailleurs, t'adores cette chanson « Vous n'aurez pas ma liberté de penser ».
C'est tout à fait mon caractère.
Vous n'aurez pas, non, vous n'aurez pas ma liberté de penser.
J'ai une citation que j'adore de Michel Hetzel.
Alors, c'est quoi ?
Une vie réussie, c'est traverser la vie avec sa force personnelle et ses convictions.
Oui, et je dirais aussi, j'ajouterais, mener à bien tes objectifs et toujours avoir des plans pour le futur.
Et est-ce que tu as une citation de quelqu'un, tu sais, comme un mantra qui te revient de temps en temps et que tu affectionnes particulièrement
non,
à nous donner ?
Non, mais toutes les citations qui pourraient dire que arrêtez de vous arrêter et de perdre votre temps sur le passé. Vivez le présent intensément et surtout regardez vers l'avenir. Ça pourrait être ma devise.
J'en ai une, un proverbe arabe. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi.
Et c'est jamais perdu, hein, dans des situations même. Et c'est ce que je dis, mais on va y arriver. Mais pour des bêtes choses administratives et tout, où tu arrives à bout, tu as envie de tout lâcher, je dirais juste pour des bêtes choses comme ça, je dis non, on va pas lâcher. On va souffler un grand coup et on va tenir. Ça va nous amener beaucoup de satisfaction après. Et après, tu es toute contente et hop, tu es repartie pour d'autres choses.
Tout à fait, on va chercher des nouvelles et bonnes énergies en permanence en se servant du moment présent uniquement. Michel, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je te souhaite d'être centenaire puisque tu veux vivre longtemps.
Oui.
Il suffit de le projeter et ça peut vraiment marcher et tu pourras en témoigner donc dans je ne sais pas combien d'années puisque tu ne dis pas ton âge.
Non.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre prochain rendez-vous n'aura pas lieu dans 50 ans, mais bien dans une semaine, même endroit, même heure. Je vous embrasse très très fort. Je remercie Radio Saint-Dié au passage pour le mixage, également pour les pochettes des podcasts ainsi que Like Ups pour le partenariat. Je vous dis à très vite et faites bien attention à vous. N'oubliez pas, soyez heureux.